Bonsoir à tous, Arnaud Naudin à la barre. En effet, le camarade Wilsdorf m'a transmis le flambeau pour cette émission où la littérature va être mise à l'honneur. Mais alors, pourquoi diantre parler de littérature ? Oui, pourquoi ? Alors qu'une étude récente du Centre National du Livre indique que les 16-19 ans consacrent 1h20 par semaine à la lecture. Oui, 1h20 par semaine, alors que tous les jours, ils consacrent 5h10 aux écrans. Et dans ce qui reste de la littérature, ce qui est plébiscité selon le Centre National de la Lecture, eh bien, devinez, ce sont encore tout ce qui a trait à l'image, à savoir la bande dessinée, les comics et les mangas. Alors, faut pas se leurrer, il est certain que ce même rapport entre l'écrit et l'image est le même pour les plus de 19 ans, voire les plus de 50 ans. Mais pourtant, nous avons décidé, en tout cas à Méridien Zéro, d'accueillir ce soir, on va dire, une revue qui a littéralement son rond de serviette depuis plusieurs années dans nos émissions, à savoir les Amis de Livre Arbitre. Et pour ce faire, bah, nous recevons ce soir Xavier Mans. Bonsoir Xavier.
Bonsoir à tous.
Et Jean Ernest. Bonsoir Jean.
Bonsoir, merci de l'invitation.
Alors au programme ce soir, bah, nous allons parler des deux derniers numéros de Livre Arbitre, ainsi que du hors-série consacré au dernier colloque de l'ILAD, et ainsi, vous allez nous en parler plus longuement bien entendu, bah de l'actualité éditoriale de Livre Arbitre qui, en plus d'être une revue, se transforme donc en maison d'édition. Mais avant, Xavier, il serait peut-être bon de revenir un peu sur les grandes lignes de la revue.
Bah avec plaisir. Alors, Livre Arbitre, c'est une revue qui est aujourd'hui un âge honorable puisqu'elle a 30 ans. Et évidemment, on ne peut pas parler de Livre Arbitre sans parler de son fondateur et de son directeur de la rédaction, qui n'est pas là ce soir, mais qui est avec nous en pensée, bien évidemment, qui est Patrick Wagner, qui a créé cette revue donc il y a maintenant 30 ans. À l'origine, c'est une revue militante du pays messin. Elle est donc née à Metz, un peu dans l'orbite du Front National de la Jeunesse.
C'était un peu la revue du Renouveau étudiant, je crois.
Oui, qui après est devenue la revue du Renouveau étudiant. Donc, à l'origine, un fanzine politique, mais qui a rapidement parlé beaucoup de littérature, a laissé une assez grande place à la littérature pour progressivement se transformer, à la suite des aléas politiques, des départs des uns et des autres, en revue exclusivement littéraire, même si évidemment la littérature et la politique ne sont pas séparées de façon fondamentale.
On le verra notamment avec le dernier numéro Gabriele D'Annunzio en une.
Tout à fait, et donc cette revue n'a fait que croître au fil du temps, puisqu'au début on était vraiment parti sur en effet un format fanzine, en noir et blanc, etc., pour être arrivé aujourd'hui à une revue livre, puisque maintenant chaque numéro compte quand même pas moins de 180 pages, avec couverture couleur, des illustrations et une qualité formelle qui, je pense, est quand même très très largement améliorée. Et donc, juste pour résumer la ligne, on va dire, assez générale de Livre Arbitre, elle se place sur deux plans. Le premier plan, c'est la mémoire, c'est faire vivre les grandes figures de notre patrimoine littéraire. C'est faire découvrir ou redécouvrir des auteurs méritants, parfois oubliés, et entretenir en effet ce patrimoine littéraire qui est si riche dans notre pays. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est de suivre l'actualité éditoriale, parce que la littérature, même si on peut considérer qu'elle est assez mal en point, aujourd'hui elle est loin d'être morte, heureusement, et il y a dans le foisonnement peut-être excessif de parutions littéraires, il y a encore des auteurs intéressants, des livres de grande qualité, et donc on essaie de se tenir au courant de ce qui paraît, au maximum de nos possibilités, puisqu'il y a quand même des centaines de livres qui paraissent chaque année, et de mettre en exergue les titres qui nous semblent mériter l'attention des lecteurs. Donc à la fois la mémoire, mais une mémoire qui n'est pas muséifiée, une mémoire au service de la littérature et de sa continuité à travers les auteurs contemporains.
J'en veux pour preuve, puisque là, on arrive, je crois, avec le dernier numéro, celui de mars 2024, à la 11e étape du Tour de France littéraire, où le rôle de la revue est de présenter que dans chaque pays, chaque province française, il y a eu à la fois des grands auteurs, mais également des auteurs qui méritent d'être en tout cas relus, ou même tout simplement lus, qui sont un peu, malheureusement, parfois tombés dans les oubliettes de l'histoire.
Oui, alors ça, c'est encore une excellente idée qu'a eu Patrick de lancer ce Tour de France de la littérature pour, en effet, montrer toutes les richesses. On a montré beaucoup, par le passé, la richesse nationale, et là, on se focalise plus sur les régions et sur, en effet, la grande diversité d'auteurs qu'il y a dans tous nos pays, toutes nos provinces. Alors, je sais pas comment il faut dire le terme, parce que je sais que certains amis régionalistes sont très susceptibles sur la terminologie qu'il faut utiliser. Province, ça me semble pas mal.
Oui, parce que province, ça, alors si on fait de l'étymologie latine stricto sensu, ça veut dire pays vaincu, mais bon.
Non, mais ce qui est certain, c'est qu'on met en.
Bon, alors, passer là, en avant. Nos régions et
régions. Nos pays.
Voilà,
nos pays. Nos terres, nos voisins, nos amis, nos... Non, mais la richesse et la diversité de la France, dans ce qu'elle a de plus beau, et avec, à chaque fois, dans chaque région, on a des témoignages de gens qui nous disent « J'ai découvert dans ma propre région d'origine un auteur que je ne connaissais pas », et ça, c'est toujours quelque chose de sympathique, ou alors de redécouvrir. On a des régions qu'on croit très bien connaître, et en fait, on découvre des auteurs, nous tous. Bon, on a quand même la chance d'avoir un pays qui a produit et qui continue de produire une littérature de qualité, et quand même dommage... Ça aurait été dommage de passer à côté. Donc là, oui, ce Tour de France qui se poursuit, qui en est presque à son but. Mais après, on aura d'autres belles aventures encore.
Oui, je crois. Donc la 11e étape, donc celle qui est dans le numéro de mars 2024, c'est consacré au pays, on va dire, d'au-delà de la Somme, c'est-à-dire la Flandre, l'Artois, l'Hainaut, la Picardie. Et effectivement, là aussi, il y a des auteurs qui parfois... peuvent venir de ces pays-là, mais il y a d'autres qu'on découvre tout simplement.
Ah oui, alors là, pour ce dossier-là, je tiens à remercier le camarade Virgile qui a conduit ce dossier, qui a rassemblé une somme assez importante et, je pense, assez inédite en langue française sur cette région et sur la production, notamment flamande, à laquelle il est très sensible, et qui a vraiment fait un panorama assez complet, peut-être pas totalement exhaustif, mais on est quand même pas loin, rassemblant des plumes en plus de grande qualité. Donc un grand merci à lui, parce que c'est ça qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois dans la construction de nos numéros, certains dossiers ou certaines étapes de notre Tour de France sont confiées à des camarades qui nous proposent leur service, car c'est une revue militante, c'est une revue de bénévoles, il faut le rappeler, et donc sans ces participations, cette revue n'existerait pas. Et donc oui, un très beau dossier sur la Flandre et sur le Nord. Alors moi, j'avoue que j'ai découvert, pas mal de noms, hein. j'ai presque honte, majorité que je connaissais pas, pour tout dire. Certains articles m'ont d'ailleurs donné évidemment envie de m'y plonger. Et c'est vrai qu'on a une diversité, parce qu'on voit qu'il y a des gens comme des gens connus comme Paul Claudel, comme l'abbé Prévost, comme le sinistre Robespierre, et puis d'autres beaucoup moins célèbres, mais qui néanmoins ont laissé des œuvres, comme Mabille de Pongeville, Charles Delain, etc., etc. L'abbé Gantois, la grande figure du mouvement flamand. Donc vraiment, oui, c'est toujours, même pour nous qui sommes, on va dire, rédacteurs de cette revue, il y a toujours une occasion de découvrir de nouveaux auteurs.
Alors oui, il y a effectivement ce volet-là qui est un peu une ligne constante, hein, de livre-arbitre. Mais on voit qu'il y a eu d'autres aspects qui ont été mis en avant. Je pense notamment à un numéro que vous avez devant vous, Jean, qui était consacré, certes, à Pierre Benoît, mais on met en avant aussi parfois, alors ça peut amuser ou pas, certains auteurs, mais c'est vrai que, notamment sur la littérature érotique, où il y a eu, je crois, un numéro spécial sur la littérature policière.
Oui,
souvent. Oui, sur le polar français. Ce qui est intéressant, c'est aussi bousculer, on ne va pas dire que faire parler d'érotisme, c'est forcément bousculer l'électorat, mais on essaie aussi parfois de sortir un peu des sentiers battus, et de, comme vous le disiez en début d'émission, la littérature malheureusement intéresse de moins en moins de gens, et surtout de moins en moins de jeunes. Notre but, c'est pas non plus de nous adresser qu'à une génération vieillissante, que l'on respecte évidemment, mais... qui est, j'espère que je ne lui apprends pas, amenée à disparaître. Et donc, on aimerait bien qu'elle soit remplacée par de jeunes lecteurs. Donc, c'est aussi pour ça qu'on essaie de faire des thèmes parfois un peu plus légers.
On a fait, se lit à deux mains, malgré tout.
On a fait... Oui, il n'y a pas beaucoup d'images. Hein. On ne veut pas non plus tromper le lecteur. Hein, c'est pas très affriolant.
Oui, mais justement, c'est la on va dire, la force de l'imagination par le texte.
Mais voilà. Et on a aussi fait sur la littérature et gastronomie ce genre de thème pour montrer que la littérature, c'est pas... C'est pas un exercice scolaire, c'est pas une punition.
Non.
C'est pas quelque chose de forcément hyper intellectuel non plus. Ça peut être divertissant, ça peut être politique, ça peut être sentimental, etc. Il y a une richesse incroyable de sentiments qui sont transmis par la littérature. Moi, ça me semble absolument catastrophique qu'une génération entière se coupe de cet art qui est, à mon avis, fondamental pour la construction intellectuelle et même pour l'existence d'un homme qui se veut à peu près complet.
Oui, à tel point qu'il y a même aussi ce qu'on peut remercier Livre Arbitre pour ça, et on va consacrer un peu de temps maintenant sur les deux derniers numéros, le numéro 44 de décembre 2023 et le numéro 45 de mars 2024, des figures où effectivement on a une certaine image politique, mais on se doute pas en fait que derrière cette image politique, il y a une œuvre littéraire très féconde. Numéro 44 met en avant Alexandre Solzhenitsyne. Effectivement, on pense toujours, quand on pense à Solzhenitsyne, à l'archipel du Goulag, mais ce n'est pas que ça. Et puis même l'archipel du Goulag est une grande œuvre littéraire. Et le numéro 45, Danuzio. Alors Danuzio, on pense tout de suite effectivement à ce qui s'est passé à Fiume à l'issue de la Première Guerre mondiale, cette espèce d'aventure politique qui a donné après d'autres expériences politiques, mais c'est d'abord avant tout un poète. Donc effectivement, il y a toujours un biais d'accrocher parfois des figures auxquelles on ne s'attend pas, les rattacher à une œuvre littéraire féconde.
L'avantage de faire des dossiers relativement complets, c'est justement d'aborder les différentes facettes de chaque auteur. Et en effet, souvent, il y en a une qui prédomine, qui est connu du grand public, et d'autres qui le sont moins. Donc ça, évidemment, c'est ce que nous permet le fait d'avoir aussi une revue assez dense qui permet d'avoir des articles assez longs et assez complets sur ces différents aspects. Là, c'est vrai qu'on a deux personnages qui sont à la fois, en effet, des écrivains, mais des personnalités politiques dont la vie est presque aussi intéressante que leur œuvre. Et c'est intéressant de parler de ces deux aspects, évidemment.
Oui, deux aspects, parce qu'en plus, c'est l'un et l'autre, même s'ils n'ont pas... c'est pas, en tout cas, la façon... Le moment où on les a connus, où ils sont entrés en quelque sorte dans l'histoire, ce n'est pas au même moment. Il y a plusieurs décennies qui les séparent. Mais l'un et l'autre sont un peu des figures qui ont marqué ou qui elles-mêmes ont été marquées par, on va dire... les grandes aventures politiques, même les grands drames politiques du XXe siècle.
Ah oui, clairement. D'Annunzio, c'est un personnage tout à fait fascinant. Alors moi, pour être tout à fait honnête, je ne suis pas très sensible à son œuvre littéraire.
Oui, non, mais...
Je vais mettre à dos les gens qui ont participé à ce riche dossier, mais j'ai essayé, d'ailleurs, j'ai lu des articles qui m'ont donné envie de m'y replonger, mais les premières fois où j'ai essayé, alors peut-être c'est aussi une question de traduction, etc., parce que évidemment, bien que je sois très, très bon en italien, je ne lis pas encore couramment l'italien. Donc, je n'ai pas tellement accroché, mais j'ai...
C'est peut-être aussi une question de style. Hein.
Voilà, j'ai toujours été fasciné par le personnage qui a quand même une vie incroyable. C'est le condottiere par excellence.
C'est le dernier, en quelque sorte.
C'est le poète soldat. C'est l'homme qui survole Vienne pour tracter des slogans politiques, à la fois politico-politiques. C'est aussi le grand séducteur, l'homme aux mille conquêtes, ce qui est un peu surprenant parce que c'est quand même un homme qui... A priori, n'est pas très avantagé physiquement. Il est borgne, il est tout petit.
C'est aussi un message d'espoir pour nos lecteurs.
Il est chauve, mais son charisme, la puissance de son verbe, etc., ont fait vraiment un homme qui était adulé par les femmes. Donc c'est un parcours tout à fait extraordinaire qui s'est en effet construit et bâti, dans une époque de pré-fascisme. Et D'Annunzio, d'ailleurs, rejoindra le fascisme, même si on sait qu'il sera jamais... Il n'aura jamais de très très bon rapport, par exemple, avec Mussolini, parce que c'est des personnalités...
C'est deux caractères trop forts.
Trop différentes. Et il y a un pragmatique d'un côté et de l'autre, un poète, mais oui, il a participé à cette grande aventure, politique qui a été aussi le fascisme italien.
Avec un côté plutôt libertaire, on va dire.
Avec un côté extrêmement libertaire, avec un côté...
Très pirate, ce qui peut...
Un côté pirate, parce que Fiume, quelque part, c'est le premier et peut-être le plus grand squat dans l'histoire politique. Hein. C'est quand même une ville qui a été prise par un particulier, entre guillemets. Parce qu'il
et on reconnaît l'importance des squats dans la
mythologie politique italienne, bien sûr. Et il a fait une expérience de gouvernement assez folklorique, on va dire, mais qui en tout cas a beaucoup marqué les esprits et la mythologie, en effet, militante de cette époque.
Parce que peut-être qu'aussi, il considérait que c'était aussi... Il y avait une dimension poétique aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, il ne distinguait pas son œuvre poétique de son aventure politique.
Ben, je pense qu'il fait partie, en effet, de ces auteurs qui ont voulu se construire un personnage à la hauteur de leur œuvre, en fait. Oui. Qui se sont donc... qui voulaient être acteurs de leur propre œuvre. Mmh. Et pas uniquement spectateurs ou au-dessus ou à côté. Donc, c'est des personnages, en effet... En effet, assez fascinant. Ouais.
Alors, de l'autre côté, il y a Alexandre Soljenitsyne, où là, c'est plutôt, celui qui, dans son propre corps, et au-delà de sa propre vie, de son esprit, dans son propre corps, malheureusement, subit le goulag et les camps d'enfermement communistes, mais qui, en même temps, se distingue, on va dire, a été un moment mal vu, on va dire, de ceux qui s'opposaient à l'Union soviétique parce que en même temps au-delà effectivement de l'archipel du Goulag de la question du fameux discours de Harvard où il est très critique des sociétés hédonistes modernes.
En effet, je pense que c'est intéressant de relire Soljenitsyne à l'aune de nos sociétés actuelles. La critique du communisme est intéressante, mais bon, j'espère bien que le communisme est mort à enterrer. Et les sociétés actuelles et le turbo-capitalisme, ou le techno-capitalisme, on appelle comme on veut, dans lequel nous vivons, méritent une critique. Et la grille de lecture de Soljenitsyne apporte des clés et une grille de critique très intéressante et constructive. Alors, tout n'est pas transposable, évidemment, parce que l'homme est déjà mort il y a plusieurs dizaines d'années, mais il y a quand même des choses et des clés de compréhension à prendre et qui sont utiles. Surtout à l'heure où, il y a quelques jours, j'écoutais sur France Inter une émission où on remettait en cause la férocité du goulag. Donc, on est quand même sur des choses. Donc, il y a ce côté passé qu'il faut apprendre et qu'il faut garder. Et il y a aussi ce côté quelles clés garder et quelles clés prendre. Et Soljenitsyne, c'est un personnage incontournable et qui est assez peu étudié, il me semble, actuellement.
Parce que je pense tout simplement, c'est que comme il n'est pas rentré, effectivement, il n'a pas donné un côté, on va dire, libéral, libertaire, très occidentaliste, voire atlantiste, très moderne, en quelque sorte, de son refus du communisme, mais plutôt traditionnel. Ne jamais oublier qu'il a été l'invité de Philippe de Villiers lorsqu'il y a eu l'inauguration, une trentaine, en 1993. Donc une trentaine d'années du mémorial des Lucs sur Boulogne, qui est l'un des plus grands massacres opérés par la République française contre les Vendéens. Effectivement, on peut dire que ça faisait tâche.
Oui, et je dirais même au sein de cette droite-là, la critique du libéralisme, parfois gêne un peu.
Oui, oui, bah totalement.
On aime plutôt se souvenir, en effet,
L'archipel
du Goulag et de sa présence auprès de, à juste titre, du souvenir vendéen, que de sa critique féroce du libéralisme, de la démission du courage et de son rejet du matérialisme absolu qui dirige, hélas, nos sociétés contemporaines.
Oui, alors ce qui est amusant, c'est que on le voit sur la couverture donc de ce numéro 44. Il y a ce Jean, le dissident, et à côté, on voit qu'il y a un dossier qui est consacré aux pamphlétaires, les enragés de la liberté. Donc, en quelque sorte, il y a toujours cette constance. On a un peu l'impression que d'où le titre, une espèce de constance dans l'Ivrabit d'un attachement à la liberté que donne la littérature.
Un attachement à la liberté, c'est évident. Et puis, surtout, à explorer des sentiers. Je pense que la littérature est un sentier très personnel. Et on l'a vu, par exemple, je vais sortir des numéros dont on parle là, mais par exemple sur le numéro de Gris Paris, qui était sorti il y a quelques mois maintenant.
Excellent numéro. Hein.
Gris Paris, pour certains de nos jeunes lecteurs, dont je fais partie, c'était la littérature jeunesse, c'était les contes de la rue Broca, des choses comme ça. Et on se rend compte que... je me rends compte qu'il n'y a pas que ça. On découvre le polar, plein de choses. Et en fait, à chaque fois, on ouvre des sentiers. Et ces sentiers, ce sont des sentiers de liberté. Je veux dire, la lecture est une évasion gratuite. Je veux dire, on promeut le voyage à tout va dans nos sociétés. Mais le premier voyage, c'est d'être assis dans un endroit calme et avec un bon bouquin dans les mains.
Oui, la liberté, c'est le bien peut-être le plus précieux à l'heure actuelle, où on voit bien que toutes nos libertés se réduisent. Et on a encore cette liberté-là de lire, de choisir les livres qu'on veut lire, d'à peu près tout trouver, même ce qui n'est plus à la mode idéologiquement ou parce que c'est plus politiquement correct, etc. Donc ça offre quand même beaucoup de possibilités, à la fois d'évasion, comme disait Jean, de voyage, mais aussi de formation. C'est aussi un moyen de formation intellectuelle extraordinaire, la littérature. Hein. Je ne parle même pas des essais, parce qu'on parle aussi des idées politiques, etc. Mais là, je parle de la littérature pure. C'est aussi de la formation. Par exemple, lire Balzac, ça vous apprend toute une époque. C'est moins rébarbatif, peut-être, que certains livres d'histoire pure. Donc, c'est cette richesse qu'on essaie de mettre en avant au travers de cette revue.
D'autant que souvent, et ce n'est pas uniquement que le cas de la comédie humaine de Balzac, hein, ça peut être même la même chose dans l'œuvre de Zola, c'est que parfois, il y a des archétypes dans la littérature qui sont intemporels et qui, en fait, même en lisant des romans de Balzac, c'est-à-dire du début du 19e siècle ou plus récent de ceux de Zola, on voit qu'il y a encore des archétypes qui sont toujours dans la société.
C'est valable avec Proust, c'est valable avec tous les grands auteurs français. On parlait de l'attachement tout à l'heure à notre terre, à travers les régions, mais qu'est-ce qu'il y a de plus nationaliste que la lecture, en fait ? Je veux dire, la langue française, c'est notre bien le plus cher. Et alors là, je vais fâcher encore des camarades, mais je pense que le fait d'avoir unifié cette langue, ça a donné quand même une langue magnifique qui a rayonné sur le monde, bon, avec des fortunes diverses, mais on a quand même la chance d'avoir un rayonnement culturel à travers cette langue qui est inédit, je pense.
Oui, même si, effectivement, au-delà de la francophonie, même la francophonie en Europe, que ce soit la Belgique ou la Suisse, effectivement, ils écrivent en français, mais avec une particularité qui correspond à leur état d'esprit. C'est la même chose pour nos cousins du Québec. Lorsqu'ils écrivent en français, c'est toujours, malgré tout, avec le prisme, on va dire...
Oui, et comme dans nos régions.
Oui.
Parce qu'il y a des auteurs qui écrivent dans les langues vernaculaires, mais la plupart des auteurs qu'on cite ont souvent écrit en français.
Oui.
Mais ça n'empêche pas que cette écriture soit imprégnée d'une identité locale forte, d'un terroir. Et on peut tout à fait exprimer des particularismes spécifiques, de ce qu'on va appeler des patries charnelles, en utilisant la langue nationale qu'est le français.
Oui, en fait, la question, ce n'est pas tellement en fait, la langue que ce qu'on veut dire, parce qu'on peut avoir effectivement une littérature en breton, en basque, en corse ou en alsacien, mais qui soit totalement à l'encontre, on va dire, d'un attachement ou d'un enracinement.
Ah oui, ben, on peut avoir aussi la même chose en français.
Hein, oui.
Ceci dit. Mais en effet, la langue, c'est le véhicule. Après, il y a ce qu'on met dedans. Parce qu'en effet, si c'est avoir des ouvrages en breton pour faire l'apologie des migrants et du wokisme, oui, je ne pense pas qu'en termes d'identité, ce soit un véritable progrès.
Oui. Alors, ce qui est très bien, effectivement, dans Livre Arbitre, et depuis plusieurs numéros, c'est qu'effectivement, il y a tout le volet sur les grands dossiers à la fois. Donc, la littérature dans les régions et les pays, les grandes figures comme D'Annunzio, Solzhenitsyn, il y a eu Kripari, il y a eu Céline, il y a eu Pierre Benoît et bien d'autres. Mais effectivement, on voit de plus en plus un volet important à accorder aussi à la poésie. On voit que la poésie occupe une place importante, je dirais, dans la revue.
Ben, la poésie, c'est un peu le cœur de la littérature. Alors, moi, je ne suis pas très bien placé pour parler de poésie parce que c'est pas ce à quoi je suis le plus sensible. Et donc, de ce fait, je ne suis pas un très grand connaisseur de poésie, mais c'est quand même, en effet, une part importante de la littérature et surtout, encore une fois, une part qui a tendance un peu à disparaître aujourd'hui.
Et à la fois, Patrick nous dit que dans les textes qu'il reçoit, il reçoit beaucoup de poésie.
Dans oui, les... bah, tant mieux, mais je veux dire, en termes de diffusion, c'est rarement de la poésie qui fait des gros tirages ou qui reçoit des prix, à part des prix spécifiques, etc. Donc c'est important
aussi
c'est,
de, malheureusement, de, c'est devenu une...
de maintenir cet art qui est en plus peut-être le plus difficile. L'art de la poésie, ça souffre pas la médiocrité. La poésie, ça peut vite être ridicule si c'est pas très, 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 très bon. Donc ça fait partie, en effet, de ce patrimoine qu'on essaie de défendre dans la revue.
Et surtout que ça a été... là, on parlait du patrimoine national, effectivement, tous ceux qui sont attachés à la patrie française... Après, avec différents niveaux entre les provinces, les régions ou même l'Europe, la poésie, c'est aussi un des éléments les plus importants de notre littérature. Je pense qu'on peut difficilement envisager la littérature française, surtout la littérature, même surtout du 19e, sans les poètes. C'est très compliqué.
Ah oui, donc c'est même fondamental. Après, moi, il me semble notre période est une période terriblement peu poétique.
Oui.
Et donc je pense qu'il est encore plus difficile aujourd'hui de faire de la bonne poésie que de faire de la bonne littérature, tant en fait la laideur et une sorte d'abaissement général est le contraire un peu de la poésie.
Oui.
Si vous voulez, c'est plus facile d'écrire un livre qui parle de la décadence, qui parle de que à mon avis de faire de beaux poèmes sur ces thématiques-là. Je pense que c'est peut-être ça qui explique aussi la difficulté qu'ont les poètes aujourd'hui à exprimer et surtout à être en à avoir un écho chez les gens, parce que le but aussi, c'est ça, c'est de toucher les gens. Je pense que les gens sont tellement loin de la poésie dans leur vie quotidienne et même dans dans ce qu'on parlait, leurs habitudes, leurs loisirs, etc., que c'est encore plus difficile de les attirer vers la poésie que vers le roman ou le récit de voyage, etc., etc.
Ah oui, puisqu'en plus, la poésie, pendant longtemps, était un des éléments les plus importants, on va dire, de l'instruction. On se rappelle tous, même je pense les plus jeunes, mais en tout cas, des moments où à l'école primaire, au collège ou même au lycée, on devait apprendre les poèmes,
les récitations,
les réciter. Et puis,
d'ailleurs, qui se souvient encore d'un
bon, les fans de la
d'un Fontaine. Poème d'un poème par cœur. Moi, par curiosité, parce que ça, je pose souvent la question.
Les fans de la Fontaine, quand même.
En entier.
Ah oui, quand même.
Ah, mais c'est bien.
C'est bien, moi je pense que... Bon, Jean, non. Le défi est relevé.
Ah, je ne suis pas de le dire.
Je ne dirai pas l'antenne, mais hors antenne, je m'y engage.
Bon, on vérifiera. On vérifiera. Non, mais ça, c'est intéressant. Moi, je sais que mes parents, ils connaissaient tous. Ils connaissaient
tous.
J'ai pas eu 50 parents. Mais les deux connaissaient plusieurs poèmes de cette époque-là. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a plus cette mémoire parce qu'on a moins appris par cœur.
Puis c'est surtout, et puis là aussi, c'est toujours la même chose, c'est le vecteur. C'est effectivement la poésie avant rythmait la vie des gens, c'était important. Peut-être que maintenant, est-ce qu'on peut parler d'une forme de poésie ou peut-être une forme abattardie de poésie, c'est qu'on est peut-être plus sensible à des textes de chansons.
Mais... Je connais des chansons de Jean-Jacques Goldman par cœur.
Et de Grand Corps Malade. Chante-nous Grand Corps Malade.
Mais en plus, la poésie a aussi souffert, je pense, d'un symptôme assez lourd qui est qu'elle a connu une crise un peu comme celle du nouveau roman où on a voulu totalement la déstructurer. C'est-à-dire qu'on est passé d'une poésie assez classique avec différentes variantes.
Les quatrains.
Mais où c'était quand même très structuré, très technique, avec rimé, à une poésie totalement déstructurée où il n'y avait même plus besoin de faire de rimes. Alors c'était même plus du surréalisme, c'était du sur-surréalisme, de l'écriture spontanée. Et c'est vraiment devenu assez largement n'importe quoi, comme le nouveau roman a donné quand même parfois des aberrations totales.
De l'égalitarisme.
Et donc, non, parce que ça, justement, c'est devenu très élitiste.
Ah, c'est devenu un truc de snob.
Parce qu'en fait, personne ne lisait ces choses qui n'avaient aucun sens.
Et l'autre pendant, c'est aussi cet égalitarisme où tout se vaut, et où pardonnez-moi le terme, mais n'importe quel con vous chie une bouse, et on nous dit, c'est exceptionnel, il a écrit, c'est le nouveau Baudelaire. Voilà.
Oui, alors il y a en effet le fait de plus devoir faire de quatrains permettait à plus de gens de se croire poète, parce que faire des quatrains,
surtout avec les alexandrins,
c'est très délicat. Donc à un moment, je pense comme un peu l'art contemporain, c'est devenu quelque chose réservé à une micro élite de snobs en effet et de gens qui s'auto gargarisaient de leur propre production, et ça s'est complètement déconnecté de la population à l'image de l'art contemporain, que ce soit la peinture, la sculpture ou même maintenant il y a même plus de sculpture et de peinture,
c'est de la performance
voilà.
Je me permets juste une incise, une dernière performance qui a subi les foudres de la justice, je ne sais plus où c'était, c'était, il me semble, une artiste américaine, artiste avec moult guillemets, hein, je précise, dont l'idée était en fait de faire de la discrimination positive, c'est-à-dire ne pouvait assister à ces performances que des femmes. C'était littéralement interdit aux hommes.
Oui, mais ça évitera que personne ne s'agrafe les testicules au, au sol du lieu, donc c'est déjà ça.
Oui.
Mais dans le domaine de l'art contemporain, et on rejoint un peu la question de la poésie, il y a eu en effet beaucoup de choses à dire dans ce sens-là. Il y a eu quand même une période où on a désappris aux gens à dessiner. Par exemple, aux Beaux-Arts, il ne fallait plus apprendre les techniques classiques de dessin, il fallait déstructurer le dessin, il fallait surtout avoir une idée originale. On ne maîtrisait plus les techniques classiques, etc. Et donc, évidemment, ça produisait des choses qui n'étaient plus compréhensibles par le commun des mortels, qui s'y en est désintéressé. Et à côté de ça, voilà, il s'est réfugié dans les écrans encore plus qu'il ne le faisait avant. Je dis pas que c'est le seul la seule raison du succès des écrans, mais on a quand même cassé volontairement le lien entre poésie, littérature et art et la population.
Oui, et puis alors il y a un autre exercice littéraire, mais qui est aussi plus compliqué qu'on ne croit, qui on retrouve dans chaque numéro de Livre Arbitre, c'est la nouvelle. Parce que c'est un exercice assez compliqué quand même à faire, la nouvelle.
Alors ça, on a toujours tenu à publier des nouvelles parce qu'on ne voulait pas justement être uniquement des commentateurs et des critiques. On voulait aussi produire des textes littéraires, et évidemment le format de la revue ne se prêtait pas à des textes très longs, donc on s'est tourné vers la nouvelle ou la micro, enfin micro nouvelle, c'est peut-être beaucoup dire, mais enfin des nouvelles
assez courtes.
Et c'est un style littéraire vraiment à part, en fait. La nouvelle, c'est pas un tout petit roman,
non.
C'est un genre littéraire particulier où il faut très ramasser, où il faut justement aller à l'essentiel, décrire les choses extrêmement rapidement. Et c'est un art, comme vous faites bien de le dire, qui est difficile. On a l'impression souvent que la nouvelle, c'est un peu ce qu'on fait avant de se lancer dans le roman. Et c'est un peu le parent pauvre, on va dire. Ça se voit notamment dans l'édition. Les recueils de nouvelles se vendent moins bien que les romans ou les choses comme ça. Alors que c'est pas du tout des romans avortés ou des romans bâclés, on pourrait dire d'une certaine façon. C'est vraiment un style littéraire particulier et qui d'ailleurs reçoit un très bon accueil dans notre revue. On a pas mal de bons retours sur ces nouvelles qui justement permettent à des jeunes auteurs de montrer ce qu'ils savent faire et en effet que nous on sorte de la simple critique et qu'on dise oui, on produit aussi des choses nouvelles. Donc vraiment, c'est depuis le début, on le fait, on continuera à le faire. Et d'ailleurs, j'invite les auditeurs de Méridien Zéro, s'ils ont des velléités d'écriture, de ne pas hésiter à nous contacter, à nous soumettre des textes. Il ne faut vraiment pas avoir de gêne ni d'inquiétude. Si ça peut être bon, ça peut être moins bon, ça peut mériter d'être écrit. Tout ça, on peut en discuter avec ce mot horrible de bienveillance, mais oui, avec bienveillance, en tout cas avec camaraderie. N'hésitez pas à nous envoyer des textes. Toutes les références, j'en profite pour le dire.
Oui, parce qu'on oublie l'essentiel quand même.
Pour Livre Arbitre, vous les trouvez sur le site internet. C'est le plus simple, www.livrearbitre.fr.
On
précise que Livre Arbitre s'écrit LIVRARBITRES. Il n'y a pas de E à Livre.
Donc .com, vous tapez livrearbitre.com, vous tombez sur le site et là vous avez toutes les coordonnées postales, etc. etc. Si par hasard vous êtes un anti-moderne conséquent et que vous n'avez pas Internet, je vous donne...
Vous ne nous écoutez pas.
C'est un peu compliqué de nous écouter.
Non, mais vous êtes chez des amis ou voilà, vous avez fait une réunion de camarades pour écouter l'émission, mais chez vous, vous n'avez pas Internet. Je vous donne quand même l'adresse postale ou si vous voulez nous envoyer des manuscrits, par exemple, papier, c'est donc chez Patrick Wagner, Wagner comme Wagner, chez Patrick Wagner, 36 bis rue Ballard, 75 015 Paris.
Et puis vous oubliez quand même un point essentiel aussi, que ce soit effectivement en vous contactant par Internet ou par... par contact épistolaire, c'est quand même l'abonnement. Puisque ne pas oublier quand même que même si c'est une revue de bénévoles, elle a quand même besoin d'abonnement et d'abonnés.
Ah bah tout comme Méridien Zéro a besoin de gens donateurs. Qui la soutiennent et qui donnent, évidemment, cette revue ne peut pas vivre sans lecteurs, déjà parce que ça n'aurait pas de sens, et surtout on ne pourrait pas le faire matériellement, parce qu'en effet, comme je l'ai dit, c'est une revue qui aujourd'hui a 180 pages, ça a un coût, les frais postaux sont de plus en plus importants, etc., etc. Donc évidemment, on a besoin d'abonnés, d'acheteurs au numéro, on est présent dans les librairies nationales, dans les librairies patriotes à Paris. Oui, il faut c'est des sommes relativement raisonnables. Et puis surtout, il faut se dire qu'en fait, si on ne s'abonne pas, ça disparaîtra. Et une fois que ça aura disparu, ça ne reviendra jamais. Ou en tout cas, ça a peu de chances de revenir. Et ce sera trop tard pour pleurer sur le fait qu'on ne lit plus, que la culture fout le camp, etc., etc. Parce que je le répète souvent, et notamment à cette antenne, c'est que pour défendre une culture et une identité, il faut déjà que cette culture et cette identité existent, et donc il faut aussi la faire vivre.
Alors je rappelle que le tarif normal pour un abonnement qui est donc de 4 numéros est de 45 euros, donc ce qui est somme toute modique. Hein.
C'est quasiment donné.
Alors, il y a un autre point, effectivement, qui est récurrent depuis, je crois, 2015, hein, vous me direz si je me trompe, messieurs, mais c'est que, en fait, Livre Arbitre s'associe donc à l'Institut Iliade pour publier, en tout cas, les textes qui sont des interventions de chaque colloque, avec parfois aussi autour, on va dire, des textes en plus et surtout tout un aspect esthétique.
Mais il y a un corpus. Bah déjà, il y a les actes du colloque eux-mêmes. Alors souvent, on est entre 80 et 100% des actes du colloque, selon les textes qui parviennent à la revue au moment de la mise en impression de la revue. Et en plus de ces textes, il y a toute une série de textes additionnels qui peuvent être portés soit par des gens proches de la revue Livre Arbitre, soit par l'Institut Iliade ou des auditeurs de l'Institut Iliade. Et l'idée, c'est autour de la thématique du colloque d'apporter des éléments supplémentaires, j'ai envie de dire, qui participent à la réflexion de la thématique et dans un esprit, oui, alors la revue Livre Arbitre, on essaie depuis quelques années, grâce à notre graphiste de talent Mario, à qui je fais un clin d'œil et une amitié au micro, de rendre des choses propres.
C'est vrai qu'on peut que le féliciter parce qu'il fait un excellent travail. Hein.
Et l'idée, c'est de poursuivre ça et avec l'Institut Iliade. Et donc, forcément, l'esthétique a une dimension toute particulière. Et donc là, on est sur une revue plus ramassée en nombre de pages, mais on s'efforce de faire un numéro déjà coloré, avec des images en couleur, avec une revue différente, on est sur un hors-série, mais qui est un peu vitrine de ce qu'on aimerait toujours faire le jour où on aura 1000 abonnés. Je peux vous assurer que on pourra peut-être faire tout en couleur et des choses comme ça.
Oui.
J'imagine, Xavier, que ces actes du colloque, bien sûr, qu'on a pu trouver lors du dernier colloque de l'Iliade, on peut les trouver également avec les autres numéros de la revue dans les librairies qui vous distribuent.
Oui, ils sont en librairie et puis vous les trouvez sur le site de Livre Arbitre et aussi sur le site de l'Institut Iliade, qui est notre partenaire dans cette opération, qui est en effet renouvelée chaque année, qui permet d'une part aux gens qui sont présents au colloque d'en garder une trace, de revenir parfois sur des interventions qui les ont marqués ou de découvrir celles qu'ils ont manquées parce qu'ils étaient à la buvette.
On a les noms, on
dirait. Donc voilà, et en effet de compléter un peu la thématique du colloque par des textes originaux. On a salué notre cher Mario qui en effet fait un énorme travail pour nous. J'en profite aussi pour saluer deux collaborateurs très importants de la revue qui lui ont fait aussi gagner en qualité. C'est le dessinateur qui fait les portraits, notamment souvent les portraits de couverture, qui est innocent. Et aussi le camarade Miège qui nous donne les dessins de quatrième de couverture et qui donne cette esthétique particulière à notre revue.
Sauf que le dernier, celui sur D'Annunzio, c'est D'Annunzio dessiné par Hugo Pratt. Vous avez décidé de...
Oui, mais on ne veut pas donner de droits, donc il ne faut pas le dire à l'antenne.
Ça sera coupé.
Non, mais ce qui est sûr, c'est que Miège apporte une poésie. On parlait de poésie tout à l'heure. Moi, je trouve que les dessins de Miège sont vraiment empreints de poésie, toujours un trait. Moi, ça me fait penser à Cocteau, personnellement, mais moi, je suis
oui,
très client.
Je pense qu'il y a cette dimension, effectivement, de... qui s'approche de Cocteau, mais c'est vrai que, comme l'a indiqué précédemment Xavier, je pense que les portraits réalisés par Innocent pour les unes de Livre Arbitre, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et en plus, au départ, elles étaient en noir et blanc, maintenant elles sont colorisées.
Oui, je pense que c'est une revue qu'on garde dans sa bibliothèque et une collection. On n'est pas obligé de lire les 180 pages d'affilée. Hein. Ça peut être aussi des outils de travail quand on a affaire un article sur un auteur, de retrouver des références, etc. C'est aussi notre but. À l'heure actuelle, il y a de moins en moins de revues littéraires. Hein, je pense qu'on est en bonne place pour, entre guillemets, être un peu une revue de référence. Je le dis avec toute l'humilité possible. On est parti de très loin, mais aujourd'hui, on a, grâce à différentes personnes, je voudrais aussi saluer quelqu'un qui est Alain Pocard, donc l'écrivain parisien que beaucoup d'auditeurs connaissent, qui a aussi beaucoup aidé la revue, notamment en lui ouvrant son carnet d'adresses, ses amitiés littéraires, etc., qui a fait que toute une génération d'écrivains n'a pas hésité à venir écrire dans une revue qui, à la base, était une revue quand même de petits jeunes et qui ont pris un petit coup dans le crâne depuis 30 ans, mais qui étaient à l'époque des petits jeunes. Et donc, il y a un mélange de générations tout à fait intéressant. Et j'en profite pour remercier ça, parce que c'est important. C'est des gens qui, encore une fois, c'est totalement gratuit, c'est bénévole. C'est parfois des gens qui ont des notoriétés importantes et qui n'ont pas besoin de Livre Arbitre pour ça. Et donc, je tiens à saluer toutes ces collaborations qui le font par amour de la littérature. Et c'est pour ça que j'invite encore une fois les plus jeunes à s'intéresser à ça, parce qu'il ne faut pas que ce lien, il ne faut pas que cette continuité soit rompue.
Il y a un autre moyen aussi de vous rencontrer, en tout cas pour ceux qui sont à Paris ou de passage à Paris, hein, c'est qu'à la sortie de chaque numéro, vous faites une soirée, et c'est une soirée où justement il y a des gens, des auteurs comme Alain Pocard, je me rappelle avoir vu aussi des gens comme Olivier Molin, où on peut effectivement rencontrer des auteurs actuels qui ont encore une œuvre à indiquer, et donc ça participe effectivement de montrer que la littérature n'est pas morte, c'est pas un objet, on va dire, d'étude, comme si c'était en quelque sorte une forme d'objet de musée ou d'archéologie, quoi.
Oui, l'occasion des soirées Livre Arbitre, donc à chaque nouveau numéro, c'est annoncé sur le site, c'est annoncé sur les réseaux sociaux. On fait en effet une soirée dédicace, apéro dédicace, hein, avec les auteurs qui ont participé au numéro ou qui sont des amis de la revue. Et en effet, on a eu des gens comme Olivier Molin, on a eu des célébrités comme Éric Nolot, on a des fidèles comme Alexis Le Gaillet, on a eu Patrice Jean, il y a quand même des auteurs extrêmement intéressants qui se déplacent, Francis Bergeron, etc., etc. Je m'excuse pour ceux que j'oublie, et qui viennent et qui dédicacent et qui discutent avec les gens qui viennent les voir. Et évidemment, c'est un moment de convivialité, c'est un moment en tout cas de camaraderie, et qui est important parce que, en effet, les amateurs de littérature peuvent parfois se sentir peut-être un peu isolés et pas avoir forcément de gens à qui discuter de leur passion. Donc, en tout cas, à cette occasion-là, ils peuvent le faire.
Puis ça rejoint ce que tu disais, Xavier, au début de l'émission, c'est en fait tout ce pan actualité de la revue, et ce pan actualité, en fait, là, il est vivace, c'est-à-dire que les auteurs qui viennent vous dédicacent des livres récents pour la plupart, ou qui viennent de sortir, après on a des amis de la revue qui ont des fois des livres qui tournent depuis un peu plus longtemps, mais c'est toujours de la littérature contemporaine, actuelle, ça permet de rappeler qu'en fait, il se fait des choses de très grande qualité. On parlait d'Alexis Le Gaillet, de Patrice Jean, on peut penser à Molin, à Clavel, des plumes actuelles qui n'ont pas forcément le succès qu'elles devraient avoir au niveau littéraire au vu de la qualité intrinsèque de la littérature de ces auteurs. Et le fait de pouvoir les rencontrer, c'est quand même une grande chance. On a tout ce pan au début de la revue avec des lectures diverses.
Les fameux plaisirs solitaires.
Voilà, où on balaye les plaisirs solitaires suivis des actualités, où on a un petit peu toute l'actualité littéraire qui est balayée, donc une actualité littéraire large. Et ça, c'est quand même une chose assez inédite actuellement. Et ça permet de montrer que la littérature n'est pas morte, et les soirées en sont le très bon exemple.
Oui,
et
puis c'est important de souligner, de s'appesantir un tout petit peu là-dessus. C'est parce qu'il y a une tendance, on va dire, décliniste, peut-être excessive parfois dans les milieux qu'on peut qualifier, on va dire, je sais pas, de droite radicale, pour résumer grossièrement. Tout est foutu, tout est nul, le cinéma, il n'y a plus rien de bien, la littérature, il n'y a plus rien de bien, de toute façon, donc autant... grosso modo, comme tout est foutu, autant regarder Netflix et puis je sais pas quoi, jouer aux jeux vidéo parce qu'il y a rien qui se fait de bien. Tous les bons auteurs sont morts en 1945. Non, il faut sortir un petit peu de ça. Je caricature évidemment volontairement, mais il y a parfois un peu de ça. Il y a encore des choses qui se font mais il faut chercher, il faut faire l'effort aussi de chercher, parce qu'en effet, c'est pas forcément ce qu'on va vous mettre en avant dans les librairies ou dans les quelques émissions de télé qui sont encore consacrées à la littérature, parce que ça, c'est pareil, il y en a quasiment plus, et quand il y en a, elles sont vraiment en général très très conformistes et très politiquement correctes.
Je crois que la dernière en date, me semble-t-il, en tout cas qui remplit un peu cette mission. Je crois que c'est la Grande Librairie.
C'est la Grande Librairie, oui.
Sur France 5, mais qui est devenue une caricature.
Mais c'est France 5, c'est en deuxième partie de soirée. On voit bien que ce n'est pas la priorité des programmateurs de la télévision de mettre en avant la littérature. Et parfois, quand il y a des talk shows où sont invités des écrivains, ils sont invités pendant 5 minutes entre une star du porno et puis une influenceuse. Ils peuvent dire trois mots sur...
Qu'avez-vous contre les stars du porno et les influenceuses?
C'est le mélange de genres qui me paraît un petit peu délicat. C'est surtout pour dire qu'ils ont rarement le temps de parler vraiment de façon intéressante et conséquente de leurs livres ou de leurs œuvres. Donc, il existe des bons livres. Il faut que vous les découvriez. Et Livre Arbitre, c'est un moyen de les découvrir. C'est un moyen de soutenir aussi ces jeunes... ces jeunes auteurs qui justement perpétuent la tradition de la littérature française. Ils existent, et voilà.
Bah justement, ça sera un peu la dernière partie de cette émission, Xavier, dans ce volet justement de mettre en avant de jeunes auteurs, en tout cas de participer à faire connaître la littérature. Donc Livre Arbitre, on l'a expliqué, c'est cette revue qui existe depuis 30 ans, c'est ces numéros hors série avec l'Institut Iliade, les soirées qui permettent de rencontrer des auteurs à l'issue de chaque numéro. Mais c'est donc votre actualité, c'est que désormais Livre Arbitre, c'est aussi une maison d'édition.
Oui, ça c'est la grande nouveauté de l'année 2023. Qui se poursuit évidemment. On a décidé de lancer cette maison d'édition qui a pour but en fait la même chose que Livre Arbitre, c'est-à-dire d'un côté de faire redécouvrir des auteurs oubliés et de promouvoir des jeunes auteurs. Donc c'est tout à fait symbolisé par nos deux premières productions, nos deux premières publications, puisque le premier livre que nous avons publié est un inédit. De Pierre-Antoine Cousteau, qui est une pièce
grand démocrate,
qui est le personnage que l'on connaît, le grand journaliste de la Collaboration, épuré évidemment en 45, qui est sorti de prison au début des années 50 et qui a été ensuite un journaliste, notamment à Rivarol, etc. Et qui a laissé une importante œuvre inédite, alors très politique pour une grande part. On pense au Dialogue de vaincu avec Rebatté, qui est un livre pour le coup éminemment politique. Mais là, on est dans le politique, mais sous une forme assez originale, puisqu'il s'agit d'une pièce de théâtre qu'il a écrite en prison. Qu'il a écrit entièrement quand il était à Clairvaux, donc sous les verrous et avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête d'une possible condamnation à mort, donc des circonstances quand même assez extrêmes. Et en fait, il a fait cette pièce de théâtre qui est en fait une espèce de réécriture du procès de Jeanne d'Arc. C'est une sorte d'allégorie de qu'il était en train de vivre à travers le personnage de Jeanne d'Arc et les différents acteurs de ce procès. Donc c'est un texte qui n'avait jamais été, été publié, et grâce au fils de Pierre-Antoine Cousteau, nous avons pu avoir accès à ce texte qui est à la fois très, très drôle, très, très grinçant, très, assez iconoclaste. Hein.
C'est l'esprit de Pierre-Antoine Cousteau.
C'est une vision de Jeanne d'Arc qui n'est pas très conventionnelle et qui pourra choquer peut-être...
Ou, sans être blasphématoire non plus.
Non, sans être blasphématoire, mais Pierre-Antoine Cousteau n'a jamais été un grand catholique et ça se ressent aussi dans ce texte, mais qui est vraiment un texte...
C'est-à-dire qu'on est loin d'une œuvre de patronage suspicion.
Non, voilà, très loin, très loin. Et donc, il faut le savoir, hein, mais nous, on ne fait pas partie des gens qui... On ne met pas d'avertissement.
Il n'y a pas
de lecteurs de sensitive riders avant la publication. On prend les gens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des adultes qui ont du recul sur les choses. Et donc, ce texte, était vraiment... J'étais très heureux avec Patrick de le publier parce que c'était vraiment dommage qu'il reste dans un carton. Et donc, c'est cette pièce de théâtre drôle qui est évidemment une attaque terrible contre les mœurs de l'épuration, puisque évidemment, on voit bien que l'évêque cochon, etc., ce sont les juges de l'épuration. Donc, c'est à la fois intéressant politiquement, c'est drôle, c'est très bien écrit. Pierre-Antoine Cousteau était peut-être pas, n'a jamais d'ailleurs, il n'a pas vraiment d'œuvre romanesque, mais c'était un très grand journaliste avec un sens de la formule assez extraordinaire que même ses pires ennemis lui reconnaissaient ce talent de pamphlétaire. Donc ça a été notre première publication. C'est toujours disponible. Hein. J'invite les auditeurs qui seraient intéressés à aller sur le site pour se procurer ce livre. Et le deuxième, par contre, c'est justement notre deuxième souci, c'est-à-dire la promotion de jeunes auteurs. Et là, c'est le quatrième livre de Thomas Clavel que nous avons publié, qui s'appelle « La tour et la plaine ». Et donc Thomas Clavel, que peut-être les auditeurs connaissent, parce qu'il a publié donc ses trois premiers ouvrages aux éditions de la Nouvelle Librairie.
Oui.
Donc c'était des ouvrages plus, on va dire, basés sur un peu de l'analyse sociologique, politique. Oui. Il y avait...
Le mauvais mot, par exemple.
Voilà,
un traître mot
qui était sur les dérives de la novlangue et le contrôle du langage. Il y a eu Hôtel Beauregard, qui était excellent. Tous sont très bons, mais moi, Hôtel Beauregard, j'ai particulièrement apprécié, qui était sur la disparition du visage au moment du Covid et, en fait, tous les délires sanitaires et punitifs qui ont entouré cette période. Et le troisième, c'était Le Jardin des Femmes Perdues, qui, là, était une analyse du féminisme coercitif, mise en parallèle avec aussi, c'est intéressant parce que c'était pas qu'une attaque contre le féminisme, il y avait aussi le pendant de ce féminisme qui était une sorte de donjuanisme un peu éperdu, qui était aussi lui aussi une fuite en avant. Et là, il nous a proposé un texte qui est un texte, je dirais, très assez différent de ce qu'il a de ce qu'il a écrit jusqu'à présent, qui est très littéraire, qui est une sorte d'exorcisme littéraire, c'est-à-dire qu'en fait le thème de ce livre, c'est assez difficile en fait, à raconter, mais je vais essayer quand même de donner une toute petite image de ce qu'est cet ouvrage. C'est l'histoire d'un homme au début du 20e siècle qui est persuadé d'être possédé, qui se sent possédé par des démons. Et qui va essayer d'exorciser ces démons, de régler cette lutte des démons qui sont en lui à travers un texte qui est le texte de cet ouvrage. Donc ça parle de démonologie, ça parle des penchants de l'homme, c'est une espèce de lutte intérieure avec des morceaux de bravoure d'écriture dans un style très à la fois très classique, mais justement ce classicisme, on est tellement plus habitué à le voir qu'on a l'impression de lire quelque chose de très nouveau et très révolutionnaire.
On est pas loin, en quelque sorte, toute proportion gardée, hein, Xavier, mais d'un texte à la Léon Bois.
Alors, c'est moins vitupérant, c'est plus intérieur, c'est moins vitupérant que Léon Bois. S'il fallait trouver, on pourrait dire que c'est un peu dostoïevskien, oui, voilà, pour faire une comparaison qui, je pense, ne déplaira pas à Thomas Clavel. Mais voilà, c'est un peu de ce registre-là. Et donc, on est très content aussi de le publier, de le faire connaître à un maximum de lecteurs.
Et vous avez d'autres projets en vue pour la maison d'édition, hein, s'entend, hein.
Alors, on est en train de lire différents manuscrits. Pour l'instant, c'est pas encore programmé. On a un projet de, alors ça va peut-être faire sourire parce que ça paraît de poésie kazakh, qui est dans les tuyaux. Vous voyez, on n'a pas une politique qui cherche le très très grand public. Hein,
mais là, c'est vraiment de la micro niche. Hein.
Mais c'est de la qualité et ça intéresse. Voilà, nous c'est si le texte nous plaît et nous paraît intéressant. Voilà, on n'a pas.
Et qui ne seront pas édités ailleurs.
Et là, quelque chose qui sera peut-être plus. Un recueil de sur Céline, vu par différentes personnalités.
Alors justement, je pensais à ça par rapport effectivement aux nouvelles qui vous sont adressées, que vous publiez dans la revue. Est-ce qu'à un moment, vous ne songez pas à éditer un recueil des nouvelles que vous avez publiées ?
Alors très franchement, on n'y a pas pensé. Pour le moment, mais ça pourrait tout à fait.
Parce que ça pourrait être un moyen de se faire.
C'est une excellente idée auquel nous n'avions pas pensé, mais je le note. Ça me paraît tout à fait faisable.
Méridien Zéro est vraiment utile pour la littérature.
Méridien Zéro est utile pour beaucoup, beaucoup de choses.
Messieurs, un dernier mot
Justement, je remercie Méridien Zéro une fois encore de donner la parole aux initiatives militantes et culturelles du milieu. J'appelle évidemment les auditeurs à la soutenir parce que, encore une fois, nous qui participons tous à des degrés divers, à des associations, à des mouvements, etc. C'est vraiment très difficile. Si on n'a pas de soutien, si on n'a pas un minimum de moyens pour se faire connaître, pour se développer, on n'y arrivera pas. Et je sais que les gens font des efforts, que la situation économique n'est pas forcément très réjouissante, mais c'est impératif. Il faut aider tous les gens qui se bougent dans notre milieu. On est isolé, on est à face de nous des forces immenses. Si on ne fait pas plus d'efforts, plus de sacrifices que les autres, on n'y arrivera pas. Et prendre un abonnement à une revue de qualité, c'est quand même un tout petit sacrifice. Faire un don à une très bonne radio, c'est un tout petit sacrifice.
Ça coûte trop.
Donc vraiment, faites-le et puis écrivez-nous, écrivez, lisez. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter.
Et puis venez à nos soirées. On a les auditeurs qui veulent simplement partager une bière pour commencer. C'est un très bon... Déjà, c'est un moment de camaraderie, ça permet de rencontrer des camarades de différents âges, de différents horizons, et de se croiser sur Paris, ça, c'est toujours un moment sympathique et qui se fait malheureusement de plus en plus rare. Et puis c'est toujours l'occasion de se connaître et de se découvrir, donc c'est toujours bien.
Et puis avant de terminer, on rappellera que le prix d'un abonnement à Livre Arbitre ou de faire des dons pour Méridien Zéro, ça reviendra toujours moins cher qu'un abonnement mais Netflix. Bah, merci messieurs, et comme on dit à chaque fois, à l'abordage et pas de quartier. Porta via, questa è la nostra storia, generazione mia. Venuti dall'inferno, col fuoco nelle vene, innalzeremo al cielo le nostre catene. E torneremo a Europa, lo promettiamo a te. Fratelli, su non dormite più, giocatevi oggi stesso la vostra gioventù. Se la maledizione ce la portiamo addosso, la bruceremo insieme col primo straccio rosso. E torneremo a Europa, lo promettiamo a te. Europa, torneremo uniti per te. Se scioglieranno il nodo che oggi ci tiene uniti, andremo in altri posti a costruire i nidi. Ci bruceranno le case, ma che importanza ha? In casa dei fratelli del posto ci sarà. E torneremo a Europa, lo
leggi e imbrogli per chiuderci la bocca, dei nostri nomi il muro del carcere rivoca, ma mille volte mille il canto si udirà di chi stasera canta la sua libertà. E torneremo in Europa, lo promettiamo a te, Europa torneremo uniti per te. E mille braccia alzate il mondo rivedrà, dentro alla mia bandiera una croce brucerà, e tremeranno ancora i farisei di sempre, e i loro soldi allora non serviranno a niente. E torneremo in Europa, lo promettiamo a te, Europa torneremo uniti per te. E chi oggi fa il padrone domani striscerà, lo troveremo allora a chiederci pietà. E chi oggi ci disprezza domani tornerà pigliacco come sempre da noi con umiltà. E torneremo in Europa, lo promettiamo a te, Europa torneremo uniti per te. Su questa nostra terra un vento soffierà e noi semineremo la nostra libertà. Lontano spazzerà i figli del tradimento, ma noi saremo